Et ne bougez pas, la causerie arrive dans 1 minute 37.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à l'antenne de Radio Canu 102.2 et sur radiocanu.org, partout ailleurs, 22h et quelques petites brouettes, et une petite brouette. Et c'est donc... c'est une causerie ce soir astronomique.
Bah oui.
Et c'est donc avec Georges. Bonsoir Georges.
Bonsoir.
Tu vas bien?
Ah bah je vais mieux.
Mieux? Yes.
Beaucoup mieux.
Et avec nous ce soir, c'est fou, c'est plein de gens. À la technique, Clara.
Bonsoir.
Qui est accompagnée ce soir par Élodie.
Bonsoir.
À plus près du micro.
Bonsoir.
C'est mieux. Il y a Stan.
Bonsoir.
Il y a Jonathan.
Bonsoir.
Et il y a Fab.
Salut.
Waouh. Et il y a moi.
Et Jean-Yves.
Bonsoir. Alors, la causerie, comme d'habitude, avant qu'on continue avec Georges et qu'on parle d'astronomie, de matos, etc., etc., on va vous rappeler quand même pour contacter la causerie. Il y a toujours le mail, c'est toujours...
lacausericanu@gmail.com.
Et il y a évidemment les blogs, le blog en tout cas, parce qu'on en a qu'un quand même, même si on a un gros ego.
N'importe quoi.
Et je voulais dire le blog...
radiocanu.org/lacausserie. T'as du mal ce soir. Hein. Ou alors vous allez sur les blogs de Radio Canu et vous cherchez la causerie, vous nous trouverez. Et un espace sur Facebook si vous trouvez tout.
C'est ça.
Voilà, mais là on répond pas, hein, je vous le dis.
Non, commenter sur le blog, c'est plus intéressant, ça nourrit les discussions ou ça pourrait nourrir la réflexion d'autres visiteurs et visiteuses qui viennent sur le blog. Donc voilà.
Et avant qu'on démarre, juste dire que l'ouverture c'était Battlestar Galactica de Richard Gibbs.
Mais oui, voilà. Tout à fait. Richard Gibbs.
Richard Gibbs.
Pardon, allez, on se reprend parce que sinon alors nos petites causeries astronomiques, on les commence toujours, c'est vrai, majoritairement, dirons-nous, par un petit point autour des saisons.
Absolument.
Et bien là, on va faire pareil.
Mm-hmm.
Ben ouais.
Comme vous le savez, nous sommes au printemps. Super.
Joie et bonheur dans les studios.
L'équinoxe de printemps, c'était lundi dernier, le 20 mars. Et ça correspond à... une position de la Terre intermédiaire entre le solstice d'hiver et le solstice d'été. Nous sommes éloignés du Soleil depuis cet hiver. Donc, je le rappelle à chaque fois, c'est donc pas ça l'origine des saisons, parce qu'on va continuer à s'éloigner du Soleil jusqu'à cet été. C'est bien l'axe de rotation de la Terre qui est incliné et qui provoque les saisons. Intermédiaire, cette position, au moment de l'équinoxe, ça veut dire que d'abord, fait ni très froid ni très chaud, et qu'ensuite, la durée du jour est égale à la durée de la nuit, à peu près, sur toute la surface de la planète. Équinoxe.
Comment il l'a bien placé, celle-là.
Et je voulais rajouter qu'on mettra à nouveau ce petit dessin qu'on met à chaque fois, mais qui explique effectivement les saisons, l'axe de rotation, etc., etc., parce que des images, des fois, c'est bien intéressant pour compléter... les paroles.
Et petit truc à dire aussi, Georges, on est, tu l'as dit, en prépa à une unité astronomique du Soleil.
Dans quelques jours.
Et c'est quoi ce bordel ?
L'unité astronomique, c'est une convention, hein. C'est 150 millions de kilomètres. Dans quelques jours, la Terre est à 150 millions de kilomètres du Soleil. Une unité astronomique.
On renverra les auditrices et auditeurs sur la première émission où tu as fait toutes les distances. Bah oui.
Bah oui. Alors, si dans quelques jours on est à une unité astronomique, ça veut dire que c'est pas toujours le cas. Hein, comme je l'ai dit en début d'émission, on est plus près du Soleil en hiver, on est plus loin en été. L'orbite de la Terre n'est pas un cercle, c'est une ellipse, comme toutes les orbites planétaires, et d'ailleurs, d'une façon générale, toutes les orbites tout court.
Ah, il faut le relancer là.
Mais c'est ce que j'allais faire, c'était pour être sûr qu'il est bien terminé. Et alors ce soir, la causerie astronomique, elle sera axée autour en fait des différentes personnes qui pratiquent l'observation et pas que l'observation.
Ils ne sont pas possibles.
Pardon, Georges, vraiment, on va se reprendre. Et donc, on va parler de gens qui pratiquent. Faites-le sortir. Allez.
Les joies du direct, c'est le fou rire.
C'est ça.
Et il n'en peut plus en plus.
Allez, donc.
Alors, je décris, pardon. Fabien est sorti de la pièce.
C'est ça.
On se reprend.
On donne tous les détails.
Il va rentrer.
Alors, effectivement, ce soir, ouais, on va parler alors, des gens qui pratiquent et du matériel qu'ils utilisent. Et des différentes, aussi des différents enrichissements en fait, que les uns peuvent apporter aux autres, etc. C'est vraiment. Enfin, c'est un très bon programme que nous avons là.
Oui. On pourrait intituler cette émission La pratique astronomique de nos jours, hein, l'activité astronomique. Il y a deux grandes catégories, hein. Il y a les amateurs et puis il y a les chercheurs qui eux sont des professionnels et sont payés pour et utilisent du matériel bien plus sophistiqué, bien entendu. Nous allons voir tout ça sans trop rentrer dans les détails parce que ça peut vite être difficile. Et on va commencer par nos amis les amateurs, dont je fais partie.
Dont tu es un représentant.
Oui, tout à fait, oui. On peut aussi les distinguer en deux grandes catégories. D'abord, les amateurs d'astronomie, hein, ce sont les gens qui ont une petite lunette dans leur appartement et qui parfois la sortent pour regarder la Lune, pour regarder Saturne et ses anneaux. Des amateurs d'astronomie, des gens qui aiment bien l'astronomie, qui aiment bien le ciel, qui se documentent beaucoup, mais qui ne pratiquent pas énormément. Et puis, la deuxième catégorie, ce sont les astronomes amateurs, qui pratiquent plus intensément. On ne va pas y arriver, hein, ce soir.
Pardon.
Oui, les astronomes amateurs qui pratiquent plus intensément et plus souvent. Donc, ils ont différents types de matériel. Ça va de petites lunettes à de très gros télescopes. Certains sont motorisés, on va voir tout ça. Alors, déjà, la différence entre une lunette et un télescope. Une lunette, c'est un grand tube avec à l'entrée un objectif, hein, formé de plusieurs lentilles, et tout au bout du tube, là où on met l'œil, les oculaires. L'oculaire qui permet de grossir l'image envoyée par l'objectif. Lunette, vous vous souvenez des émissions d'histoire, c'était Galilée qui le premier l'a dirigé vers le ciel. Et puis il y a les télescopes, c'est un peu différent, une invention de Isaac Newton, encore lui, où là, on n'a pas une lentille à travers laquelle la lumière passe, mais au fond du tube, un miroir parabolique, il est creusé. Hein, et c'est ce miroir qui a pour rôle de concentrer la lumière qu'il reçoit du ciel. Et il concentre vers l'avant du tube, où il y a un deuxième miroir, et on regarde sur le côté. C'est un type de montage optique qu'on appelle encore de nos jours télescope de type Newton. Mmh.
C'est d'ailleurs une photo, je crois qu'on avait, mis une photo d'ailleurs sur le blog autour de ce premier télescope fait par Mr. Newton.
Absolument.
C'est ça.
On a retrouvé Fabien.
Pardon pour mon fou rire, je ne sais pas ce qui m'a pris, c'est la fatigue. Voilà. Et donc Newton, parce que je vous ai un peu coupé en rentrant.
Et ces instruments sont montés sur différentes montures. Ça fait un peu pléonasme, hein, ça. Sur différentes montures qui soit permettent de viser facilement, mais sans suivre le ciel, soit au contraire, pour les plus perfectionnés, de suivre le ciel en temps réel. La Terre tourne, donc tout le ciel semble tourner autour de nous. Et si on veut que l'image reste bien au centre du télescope, on motorise l'instrument. Il tourne en raison d'un tour en 24 heures, en sens inverse de la rotation de la Terre. La première catégorie de monture s'appelle azimutale, azimut, la verticale, et la seconde catégorie équatoriale, parce que elle se déplace selon un axe qui est perpendiculaire à l'équateur céleste, un axe qui est dirigé vers le pôle nord céleste.
Et donc, ça, ce sont des types d'instruments amateurs.
Voilà. D'accord. Mais on retrouve ce type de monture chez les pros et leurs énormes instruments.
Oui, en fait, avec les pros, c'est... Pardon. En fait, avec les pros, c'est surtout une histoire de dimension, finalement.
Oui,
en
fait, tout à fait. Tout à okay. fait, tout à fait.
Et de moyens, du coup. Oui. Parce que c'est beaucoup plus cher. Et ça se fait à la main. D'arrêter de me regarder comme ça. Je ne vais pas rire de nouveau. Ça se fait à la main, ces choses-là. Enfin, on peut les monter ou alors il faut...
Alors certains ont réalisé leur propre télescope. Pour une lunette, c'est plus compliqué parce qu'il est difficile de tailler des lentilles. Pour les miroirs de télescope, je ne dirais pas que c'est facile, c'est un peu plus aisé. Il y a pas mal d'amateurs qui l'ont réalisé. Nous en avons un chez nous, Nata, il se reconnaîtra. Il a réalisé entièrement son instrument de A à Z, depuis le miroir jusqu'à l'électronique qui permet de suivre le ciel.
Et à part pour la fierté d'avoir fait ça, parce que quand même, ça doit être pas mal, il y a au niveau de ce que tu arrives à voir, etc., quand tu le fais toi, c'est plus perfectionné, moins perfectionné qu'un acheté.
C'est au moins aussi perfectionné, c'est souvent plus performant même, et surtout c'est 3 ou 4 fois moins cher, c'est surtout.
Oui, parce qu'en fait, un télescope monté sur... Une base qui est donc soit équatoriale, soit azimutale, ça coûte combien en fait? Donc on parle déjà d'un instrument qu'on ne peut pas trimballer dans la voiture le week-end là.
Pour parler du coût, là il va falloir parler des dimensions de l'instrument. D'accord. Ça peut être un petit télescope, une petite lunette qui ne va pas coûter très très cher, en dessous de 1000 euros, ce qui est déjà pas mal. Et ça peut aller pour les très gros instruments d'amateurs à des dizaines de milliers d'euros. Ça va dépendre des performances et de la dimension de l'optique. Mais une très bonne lunette, oui, avec un très très bon objectif, même si en dimension elle n'est pas énorme, 12 cm de diamètre, 120 mm, si l'optique est vraiment très très bonne, ça peut également valoir plusieurs milliers d'euros.
D'accord.
Les télescopes permettent effectivement de faire des optiques plus grosses. Plus facilement, plus grosse. Donc de collecter plus de lumière, d'avoir plus de puissance. Alors je m'arrête sur cette puissance-là, un court instant. Je vais dire quelque chose qui va peut-être choquer. Je veux dire que les gros télescopes ne grossissent pas plus que les petits télescopes. Bigre. Alors pourquoi acheter un gros télescope super cher si ça ne grossit pas plus? Parce que ce n'est pas le grossissement qu'on recherche. Pour une image qui aura la même dimension, un même grossissement, l'image sera bien meilleure dans un gros télescope. Elle sera plus contrastée, elle sera plus précise, elle sera plus lumineuse, elle aura beaucoup plus de détails.
Parce que la structure n'est pas la... Enfin, la structure, c'est le miroir, en fait. Ouais. C'est la surface du miroir qui réceptionne toute la lumière.
Et qui réceptionne plus de lumière.
Qui finalement apporte une définition différente, en fait, et pas une image plus grande.
Et la définition de l'image, ce qu'on appelle la résolution, elle est en rapport direct avec la dimension de l'optique.
Donc en gros, pour avoir un bon télescope, il nous faut une grosse optique qui permette de réfléchir un maximum de lumière pour avoir une image plus nette.
Absolument.
Parfait.
Une image qui ne sera pas plus grosse, mais qui sera beaucoup plus nette et beaucoup plus jolie.
Et du coup, les télescopes amateurs qu'on trouve, c'est quoi la taille la plus grande qu'on connaisse aujourd'hui?
Alors, certains amateurs ont des miroirs d'un mètre de diamètre. Ils sont encore peu nombreux. Ce sont des miroirs qui, à eux seuls, pèsent 200 kg. C'est quelque chose de colossal. Quand on parle de tout le télescope, c'est encore bien plus lourd. Voilà, quelques amateurs équipés en France de ce genre d'instruments. Il y en a quelques-uns qui ont des 500 ou des 600 mm. Toujours de diamètre, hein, je ne parle pas de la longueur. Non. Moi, ben, je l'ai déjà dit, oui, dans cette émission, là, j'utilise un télescope de 400 mm de diamètre, c'est déjà pas mal. Mais pour l'observation visuelle, c'est vrai que 300-400 mm, c'est l'idéal. Ça correspond à la plupart des instruments que les astronomes amateurs ont de nos jours, 250, 300, 400 mm. Pour faire de la photo, on y viendra tout à l'heure, un instrument plus modeste suffit. Il faut juste qu'il puisse suivre parfaitement le ciel. Il faut qu'il ait une bonne monture, un bon moteur de suivi et puis une bonne électronique là derrière.
Très bien.
Ah pardon. Est-ce que tu voulais encore ajouter quelque chose ou est-ce qu'on se fait une petite coupure et on continue après à discuter des amateurs, observateurs et tout ça?
Je voulais donner quelques chiffres sur le nombre d'astronomes.
Ah oui, c'est vrai.
Alors, des dizaines de milliers d'astronomes amateurs en France tout de même. Il y a 500 clubs et des dizaines de milliers d'amateurs, puis des millions dans le monde. Il y a sur la région, là, plusieurs clubs, il y en a trois qui sont très connus. Il y a la Société Astronomique de Lyon, la SAL, qui a son siège à l'Observatoire de Saint-Genis-Laval. L'Observatoire de Saint-Genis-Laval a en son siège également un groupe de chercheurs. Hein. C'est le CRAL, le Centre de Recherche Astrophysique de Lyon. Autre club amateur très connu, c'est le CALA. Le CALA, ça veut dire deux choses au sein du même club. Ça veut dire Club d'Astronomie Lyon-Ampère, et ça veut dire Centre d'Animation Lyonnaise en Astronomie. Dans les deux cas, on obtient CALA. C'était malin.
Et c'est d'ailleurs, on dit le CALA.
Oui.
Ouais, le CALA qui organise de temps en temps des conférences autour de ce thème-là, en fait.
C'est ça ? Tout à fait.
Ça peut intéresser.
Conférences que vous retrouvez régulièrement au Musée des Confluents.
Oui, je ne donne pas les adresses, il suffit d'aller sur le net et puis tout s'affiche. Et puis il y a un troisième club qui m'est cher, c'est le Club d'Astronomie de Chaponnay. Nous sommes une vingtaine de membres, dont trois femmes, hein, deux Chantal et une Fanny, je les salue.
Oui, parce que, alors justement, il précise ça, c'est parce que moi j'avais posé la question effectivement de la représentation finalement des femmes dans ce milieu-là, comme dans d'autres milieux, c'est toujours intéressant quand même, et effectivement, elles ne sont pas plus nombreuses que souvent dans plein d'autres milieux. Donc voilà.
Non. Je salue d'ailleurs au passage tous les membres du club de Chaponnay.
Chaponnay.
Et je vous ai souvent invité dans cette émission à passer nous voir le mercredi soir à 20h30. Quand il fait beau, on sort un instrument, on peut regarder Jupiter, on peut regarder quelques trucs. Même si nous ne sommes pas dans un ciel idéal à Chaponnay, on a quand même quelques trucs à montrer.
Et c'est où à Chaponnay qu'on te retrouve ?
Alors Chaponnay, c'est au centre... c'est à la maison des associations, excusez-moi, c'est à la maison des associations de Chaponnay, derrière le centre culturel Jean Gabin, l'espace Jean Gabin, qui est une structure toute neuve. Tout ça, c'est vers les terrains de sport, un petit peu à l'extérieur de Chaponnay. Là encore, c'est pareil, si on tape Astronomie Chaponnay, on a les coordonnées, on a un plan d'accès.
J'avais juste une petite question sur les passionnés d'astronomie. C'est le nombre augmente ou diminue ?
Il est plutôt stable depuis quelques années. On dirait que les amateurs d'astronomie, augmentent. Il y a de plus en plus de monde qui regarde le ciel. On a tous croisé des gens qui sont partis en montagne et qui nous ont dit « Waouh, le ciel là-bas, il est génial, j'aimerais bien connaître les constellations ». Donc voilà, des amateurs d'astronomie qui derrière vont peut-être donner des astronomes amateurs. Mais le nombre, effectivement, est plutôt stable depuis pas mal d'années.
On fait une petite coupure musicale et on revient juste après.
Allez.
et vous êtes de retour dans la causerie astronomique en compagnie de Georges. Et on vient de s'écouter... qu'est-ce qu'on vient de s'écouter?
Alors c'était Toute chez Lose.
Oui, c'est ça.
Avec
Mombasa.
Mombasa.
Voilà.
BO du film Inception.
Par Hans Zimmer.
C'est ça.
Voilà. Tout est voilà. Dit. C'est dur ce soir, pardon. Continuons. Alors, on parlait justement astronomie amateur. Avant la coupure, bon c'est au tour de Clara pour le fou rire, avant la coupure, et tu parlais, tu commençais à parler des instruments et des différentes tailles qu'il faut qu'ils aient pour pouvoir observer correctement, et là tu vas nous un peu plus nous détailler ça.
Oui,
Georges.
On va parler de ce qu'on peut faire avec, ouais. Avec ces instruments, de ce qu'on peut regarder, de ce qu'on peut photographier, et comment on s'y prend. Alors, pour regarder le ciel, c'est mieux de le connaître un petit peu, le ciel. Alors, c'est vrai que les objets du ciel sont positionnés de façon précise dans les atlas, hein, dans les cartes du ciel. Les objets, hein, je précise, ce sont des nébuleuses, des amas d'étoiles, des galaxies. Nous, les astronomes, nous appelons ça des objets, même s'ils ne sont pas palpables. Mmh. À propos des objets, d'ailleurs, j'avais parlé dans cette émission de deux grands atlas. Hein, Messier, qui comprend 105 objets... Et puis le New General Catalog, qui en comprend 8000, enfin c'est autre chose. Avec chacun son numéro dans le catalogue. Donc ces objets, on les retrouve dans des cartes du ciel, positionnées par rapport aux constellations. Donc il est intéressant de connaître les constellations pour se repérer et retrouver ce qu'on veut regarder. De nos jours, il existe des systèmes qui permettent de s'affranchir de la connaissance du ciel. Il suffit de taper le nom de l'objet sur un clavier et le télescope le pointe tout seul.
C'est un peu, alors, c'est moins bien, non?
Alors, pour moi, oui. Enfin, chacun prend son plaisir où il veut. Hein. Moi, j'ai autant de plaisir à chercher et trouver un objet, même difficile à trouver, qu'à le regarder ensuite. Voilà. Mais ça, c'est moi. Hein, c'est moi.
Oui, mais en même temps, tu peux trouver des choses qui ne sont pas connues en cherchant quelque chose de connu, ce qui ne peut pas arriver quand tu pointes automatiquement.
Oui, ça, c'est l'occasion de parler des découvertes un petit peu faites au hasard par les amateurs, parce qu'effectivement, les amateurs regardent bien plus dans toutes les directions que les chercheurs, et parfois, ils tombent sur des objets que les chercheurs ne connaissaient pas, des comètes, principalement des comètes. Je vous parle de ça parce qu'il m'est arrivé une petite anecdote cet été. Nous étions en camp d'astronomie dans les Alpes du Sud. Et je cherchais, près de la constellation de Pégase, une galaxie. Pas aussi difficile, hein, ça s'appelle NGC 7479.
Bah oui, évidemment.
Et puis, quel joli nom chantant.
Et puis j'étais un petit peu à l'ouest, mais si je puis dire, j'étais à un degré trop à l'ouest dans le ciel. Et je suis tombé sur un objet extrêmement faible, à peine visible dans le télescope, et je me précipite sur mon premier atlas, et rien à cet endroit-là. Waouh, une comète ? Imaginez une comète qui s'appellerait Rosinski.
Ça, c'est ton égo qui parle.
Une comète. Je regarde un deuxième atlas, et toujours rien dans l'atlas. Alors là, le corps se met à battre la chamade, hein. Et je prends mon meilleur atlas, plus précis, qui est extrêmement épais, qui comprend des milliers d'objets. Et là, effectivement, à cet endroit-là, il y a bien un objet. Il s'appelle Palomar 13, cet objet, enchanté. Palomar pour l'observatoire qu'il a découvert. Et c'est un amas globulaire. C'est un des derniers amas globulaires à avoir été découvert à Palomar. Extrêmement faible, donc il existe bien. Mais c'était déjà une performance de le voir... dans un télescope d'amateur. Mais il n'y aura pas de comète qui...
Mais grosse déception pour toi.
Qui portera mon nom cette fois-ci.
Non mais c'est intéressant de voir que donc des amateurs, on ne va pas dire régulièrement, enfin si on peut dire régulièrement, de temps en temps, découvrent des choses et pourtant ce ne sont pas des gens qui sont estampillés chercheurs officiels, mais ils peuvent...
Non mais ils couvrent bien plus de surface du ciel avec leurs instruments. Que les chercheurs.
Oui, et puis c'est ce que tu disais, alors on abordera plus tard les professionnels, mais c'est ce que tu disais, effectivement les pros sont souvent dans des carcans un peu, c'est-à-dire dans un but, dans une recherche, dans le cadre d'un programme, Alors que finalement, l'amateur, il a tout son plaisir finalement pour partir regarder
et regarder partout.
Mais oui, et voilà. Ça, c'est quand même absolument hyper intéressant, en fait, je trouve que...
Absolument. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir dans un télescope, ou comment on voit dans un télescope? Ben, si on prend un télescope de taille moyenne, hein, 200-250 mm de diamètre, eh bien, quand vous pointez Jupiter, vous avez tous les nuages, les bandes nuageuses de Jupiter sur le disque. Vous avez les quatre satellites qui tournent autour, qui sont à des heures différentes, dans des positions différentes. Hein. Ils tournent très très vite autour de Jupiter. On a plein de détails sur Jupiter, déjà avec un instrument d'amateur. C'est magnifique. Je vous invite à voir ça un jour. Magnifique.
Juste, Georges, un petit rappel, glossaire tout bête, satellite égale lune, les lunes de Jupiter, les satellites de Jupiter. Voilà. Il n'y a pas encore d'habitants sur Jupiter qui envoient des satellites qui tournent.
Pardon. Le satellite naturel de la Terre, c'est notre lune, et donc il y a d'autres satellites naturels autour des autres planètes. Quand on pointe Saturne, eh bien on voit parfaitement les anneaux de Saturne, on voit même des détails dans les anneaux. Absolument magnifique. On se rappelle toujours de la première fois où on a vu Saturne pour la première fois au télescope. Moi, c'était en 1975.
Ne te fais pas trop de mal non plus, Georges.
Mais je n'ai pas oublié.
Ben ouais. Mais d'ailleurs, ici, je crois qu'on est plusieurs à aussi avoir vu les anneaux de...
Ben, moi, le souvenir que j'ai de notre escapade astronomique, c'était Jupiter. C'était les bandes nuageuses sur Jupiter qui étaient assez nettes au final et très fidèles aux représentations graphiques des diverses séries SF.
Oui, c'était...
Et moi, c'était le froid. Parce que je voulais juste dire une chose, c'est que souvent, sur la partie hiver justement, il ne faut pas oublier qu'on va dans un endroit pour avoir un beau ciel perdu, donc on perd des degrés par rapport à la ville. Et puis on oublie que ça va pas finir à minuit, hein. Ça va finir à 2h, 3h du matin, on a froid, on commence à congeler sur place, mais c'est incroyable. Mais on a froid.
Non mais c'est intéressant de voir qu'il y a, un vrai investissement chez les astronomes finalement, parce que Georges, bon, quand tu dis je suis en camp d'astronomie, tu es à plusieurs milliers de mètres au-dessus du niveau de la mer, et il fait pas hyper chaud là où tu te trouves quand même, pour être clair, pour avoir le plus beau ciel possible.
Oui, tout à fait. Bon, l'été dernier, nous étions à 1400 mètres, ce n'est pas non plus extrêmement haut, hein, mais le ciel est excellent à l'endroit où on se trouvait. Oui, oui, l'observation de Jupiter cette année. Et Jonathan, c'était en plein mois de février, donc là, les gens vont comprendre.
Oui.
Non, mais c'était, voilà. C'est vrai que c'est très beau de voir et effectivement de se rendre compte qu'on peut voir à l'œil nu, enfin à l'œil nu, non, à l'œil avec un télescope, on peut voir en fait quelque chose qu'on a vu qu'imaginer ou que dans des films et qu'on se rend compte que c'est extrêmement beau. Et toi, tu parlais genre du lien avec le photon qui part de là-bas et qui arrive dans ton œil. Et c'était ce lien presque charnel avec ce que tu regardes.
Oui, moi j'adore l'observation visuelle. C'est un lien carrément physique, effectivement, parce que les photons qui arrivent dans notre œil au travers de l'instrument sont partis de là-bas, de l'objet qu'on regarde, et ont parfois voyagé des millions d'années pour nous venir des galaxies qu'on regarde. Le lien est carrément physique, charnel, disait Fabien. Oui.
je suis poétique ce soir.
Après, je sais pas, j'irai pas jusqu'au lien charnel, mais c'est vrai que quand on n'a pas, tout le monde n'a pas l'habitude d'aller voir les étoiles en fait. Je pense on les regarde, puis surtout quand on est citadin, il y a pas mal de lumière autour, c'est compliqué de les voir. Mais c'est vrai que ce type de club d'astronomie, finalement, l'importance des astronomes amateurs, c'est que ceux qui ne sont ni astronomes ni amateurs puissent quand même découvrir ce genre de choses. Parce que c'est vrai que c'est impressionnant. Donc, et notamment d'avoir de la lumière qui a des millions, et des milliers, voire des milliards d'années, nous arriver directement dans la rétine. voilà, c'est
oui, c'est ça.
Et en fait, il y a aussi des gens qui nous permettent de voir un peu le ciel, c'est ceux qui en font des photos. Et comment on appelle
quel matériel
et comment on les appelle, ces braves gens?
Alors, je finis quand même très rapidement avec les autres choses qu'on peut regarder dans le ciel avec un télescope. Hein. Regardez. Il y a des amas d'étoiles, certains par milliers, voire centaines de milliers d'étoiles au même endroit. Ils sont dans notre galaxie, c'est ce qu'on appelle les amas globulaires, absolument spectaculaires. Il y a les nébuleuses, hein, ces grandes masses de gaz éclairées par les étoiles. Vous avez pu profiter d'une d'entre elles au mois de février. Et puis il y a les galaxies. Alors là, ce sont les objets les plus lointains, hein, que l'on puisse voir avec un télescope. Et effectivement, c'est absolument fascinant d'imaginer que la lumière a voyagé des millions d'années avant d'arriver. Alors, les plus brillantes sont quand même très, très clairement visibles dans un instrument. On les voit immédiatement, elles flashent. Mais il y en a quand même plusieurs milliers où il faut un peu s'écarquiller les yeux pour les apercevoir dans le champ visuel du télescope. Ça demande un petit peu d'habitude. Mais voilà, je me fais plaisir avec ces objets parce qu'ils sont difficiles à trouver.
On revient au plaisir de la recherche, en fait.
Tout à fait. Alors, on parlait d'un deuxième type d'astronome, une deuxième pratique, c'est de faire des images des objets du ciel, les astrophotographes.
Et bien, maintenant que tu as donné le nom, on se retrouve dans 3 minutes. Comme ça, les gens, ils sont obligés d'attendre. C'est bien, non?
Vous êtes de retour dans la causerie sur Radio Canu, une causerie astronomique. Et on vient de s'écouter les ancêtres de Daft Punk, vraiment. C'est le groupe Space avec le titre Magic Fly Music. Et je vous dis ça sérieusement, allez sur internet, tapez le nom de ce groupe et regardez le clip. C'est les Daft Punk 30 ans avant. Et ben, on est toujours avec Georges donc pour cette causerie astronomique. Et avant cette coupure musicale, tu nous parlais des astrophotographes.
Du moins, j'allais parler de.
T'allais, c'est vrai. Tu as juste donné leur nom. et rien d'autre. Eh ben, on c'est va développer ça, oui. Maintenant.
On en a quelques illustres membres au club, hein, qui font des images merveilleuses que vous pourrez retrouver sur le blog de l'émission. Ça demande beaucoup de pratique et énormément de boulot pour faire des bonnes images du ciel.
Mais déjà, le matériel qu'ils utilisent, est-ce qu'ils utilisent juste
certains utilisent des lunettes.
Ok.
De belles lunettes avec une bonne optique et des bonnes montures. D'autres, des télescopes.
Oui, parce que du coup, ils peuvent aussi jouer sur l'effet de zoom avec leur matériel vidéo, enfin photo.
Oui, en fait, ils ont des caméras électroniques derrière les instruments qui permettent tout un tas de choses. Mais il faut beaucoup de maîtrise pour arriver à en tirer quelque chose, croyez-moi.
Oui, parce que c'est pas que prendre un cliché, en fait. C'est ce que
non,
tu disais,
c'est beaucoup
derrière,
plus compliqué que ça.
C'est un travail de filtration, etc. Enfin, de filtration, je ne sais pas si ça se dit.
De filtre tout court.
Mais de filtre, etc., etc. Donc, ce n'est pas juste clic-clac, on prend la photo.
D'abord, vous êtes confronté à un premier problème, c'est que pendant la pause, le ciel bouge.
Effectivement.
Si vous ne faites rien, c'est tout flou.
Parce que la Terre tourne, il paraît. Hein. Moi, on m'a dit ça, mais je ne suis pas sûr.
Parce que la Terre tourne.
J'ai vu des vidéos qui disaient que pas du tout.
Et donc, comment ils font pour compenser? Ils tournent en même temps ou
Eh bien, autrefois, on mettait une lunette en parallèle à l'instrument principal et on suivait à la main, en corrigeant les mouvements du moteur de suivi. Parce que c'était fastidieux, compliqué, difficile.
Oui, parce que je suppose, je pense que tout le monde se pose la question, c'est que ça prend un certain temps de pause photographique.
Oui, il fallait une heure de pause pour certains objets. Pendant une heure, il fallait... Pas quitter l'objet.
Oui, parce que le principe d'un appareil photo, donc, c'est que c'est le temps d'exposition de la pellicule qui va donner une image plus claire et donc plus colorée pour les pellicules couleur. Et du coup, si on doit prendre un objet qui est très 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 loin, donc très très sombre, on est obligé de laisser l'optique de l'appareil photo ouvert longtemps. Et donc, c'est là où on a des flous, où on a de la lumière qui arrive et qui ne devrait pas, etc.
Comme tu as bien expliqué ça, Jonathan.
Merci.
Et donc, et maintenant, aujourd'hui, ils font toujours ça à la main avec une manivelle.
On a toujours une lunette guide sur l'instrument principal, que l'instrument principal soit une lunette ou un télescope, d'ailleurs. Et derrière cette lunette guide, on y met une caméra reliée à un logiciel. On pointe cette lunette guide sur une étoile brillante ou quelque chose qui est proche du champ. Et le logiciel permet de garder l'étoile guide au centre du champ, de manière à ce qu'il n'y ait pas de bouger. Le logiciel agit sur les moteurs de l'instrument et garde parfaitement l'objet aligné.
Dans l'idée, ça se déplace à quelle vitesse?
C'est un tour en 24 heures.
Oui, mais au niveau, justement.
J'adore comment
donc,
c'est
bon. Oui. Oui, dans le champ visuel d'un télescope, tu as peut-être dû constater que ça va quand même très très vite.
J'ai été même surpris.
Oui, quand on regarde Jupiter avec un grossissement d'une centaine de fois, par exemple, eh bien, Jupiter ne passe que 30 secondes dans le champ visuel du télescope. Ensuite, il faut la repointer, la réaligner. Ça va très vite.
Donc, un amateur qui ferait une photo de Jupiter, pour avoir une photo correcte, comme l'expliquait Jonathan, il faut qu'il y ait une focale assez longue. Donc du coup, une exposition assez longue. Donc ça veut dire qu'il faut que l'instrument suive Jupiter, corrige la rotation de la Terre, parce que Jupiter ne bouge pas vraiment. De toute façon, est-ce que ça marche? Mais alors, tu disais, il y a un logiciel, moi je veux bien, mais ce logiciel, il agit sur des moteurs, et tout ça, tu y achètes ou tu y fabriques?
Eh bien, ça s'achète. On a un amateur au club qui a tout réalisé lui-même, y compris son électronique. Mais ça peut quand même s'acheter. Bon, l'avantage de le réaliser soi-même, c'est que ça coûte beaucoup moins cher, bien sûr, comme d'hab. Et bon, venons-en au télescope principal qui va faire l'image. Lui, il lui faut aussi une caméra de prise de vue, un peu plus perfectionnée que la caméra de suivi. Et il lui faut aussi un logiciel derrière. On prend en fait toute une série de poses courtes, c'est à 10 minutes, et on en prend tout plein. Et ensuite, on a à la maison un logiciel qui va retraiter tout ça, prendre les meilleurs, et nous en tirer quelque chose de magnifique. Vous verrez sur le blog.
Ah pardon, je voulais pas te couper. Et moi j'ai une question par rapport aux photographes amateurs, c'est que il y a des revues qui existent. T'en avais amené pendant la prépa, Ciel et Espace. Si
oui, je me suis baladé avec Ciel et Espace. Oui.
Et est-ce que parfois des amateurs peuvent être publiés parce que leurs photos sont suffisamment détaillées, belles, ou même elles peuvent servir d'exemple?
Si ma mémoire est bonne, je crois pouvoir dire que tous nos astrophotographes, à un moment donné, ont été publiés.
D'accord. Ah, donc c'est quand même pas rien, quoi.
Non, c'est quand même pas rien. Ils font de très très bonnes images.
Non, mais parce que des fois, quand on dit amateur, les gens ont l'impression que c'est fait un peu à la bad, comme ça, voilà. Sauf qu'en fait, non, il y a des images. On le redit, on en mettra sur le blog, vous verrez, c'est vraiment bluffant, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Et est-ce que vous, par exemple, si on vient vous voir au club et genre, il ne fait pas très beau, ça peut arriver, hein. Un mercredi soir, il ne peut pas faire pas très beau. Est-ce qu'il y a des photographes amateurs, des astronomes...
Des astrophotographes.
Enfin, des gens qui font des photos du ciel, là. Est-ce qu'ils peuvent montrer leurs photos comme ça
Absolument. Voilà. Absolument. Ouais, aussi, il y a toujours moyen de faire quelque chose d'intéressant. Montrer les photos, faire un petit exposé, montrer le matériel aussi, tout simplement. Boire un petit coup aussi. Parce que nous avons un frigo.
Il l'a placé. Et en plus, il y a des bières. Ah, bah alors, on va y aller.
En même temps, hein, c'est social, l'astronomie, j'ai envie de dire. C'est comme l'alcool. Hein.
Donc voilà, pour l'astronomie amateur.
Ouais, hein. Justement. Mais là, on peut faire justement un peu la jonction, en fait, entre ces astronomes amateurs et ce qu'ils appellent aussi, parce qu'ils contribuent en fait au travail des professionnels. Et on avait deux trois situations, enfin tu avais évoqué à la prépa deux trois situations où les amateurs sont vraiment d'une importance, je pense.
Oui, on peut donner un ou deux exemples. Ouais. Par exemple, le suivi de l'activité solaire. Mmh. Hein, nous avons des amateurs qui répertorient les tâches solaires tout au long de l'année pour déterminer l'activité solaire, envoyer leurs observations au centre de recherche. Et voilà donc des amateurs qui contribuent à la recherche. Un autre domaine aussi, où les amateurs interviennent, ce sont les étoiles variables. Parce qu'elles sont tellement nombreuses que les chercheurs n'ont pas trop le temps de les surveiller en permanence et font appel aux amateurs. Donc certains amateurs envoient les courbes de lumière des étoiles qu'ils ont surveillées. Aux chercheurs.
Et alors juste parce que je trouve que tu m'as appris un truc et que je trouvais dommage qu'on n'en parle pas vite fait, mais c'est justement ces taches du soleil qui sont des...
Ce sont les zones plus froides.
Des wolves, c'est ça?
Alors c'est le nombre de wolves qui est déterminé par le nombre de taches qu'on a observées tout au long de l'année, qui permet de déterminer l'activité solaire.
Comment il va, quoi?
Voilà.
C'est ça.
Donc voilà.
L'activité solaire, c'est comment ça va, quoi.
Donc voilà quelques exemples de contributions des amateurs à la recherche astronomique.
Et tu parlais aussi, je le redis, des comètes tout à l'heure qui peuvent être découvertes et qui du coup sont référencées.
De nos jours, les comètes sont presque systématiquement découvertes par des amateurs. Ou par des télescopes automatiques d'ailleurs, parce que figurez-vous que ça existe.
Oh les salauds, même ça ils veulent nous le voler. Oh ces robots alors.
Mais ça veut dire donc des pardon, j'ai perdu le mot.
Télescopes.
Des télescopes qui
grand champ qui surveillent le ciel.
D'accord. Ok. Et qui prennent, qui font des calculs, qui prennent des mesures ou.
Ils cherchent des comètes, essentiellement.
D'accord.
Des comètes.
Ok.
Bon, des comètes.
Si même les machines chargent des comètes.
Et on va rappeler pour être astrophysicien, donc c'est-à-dire chercheur en astrophysique, c'est quoi le cursus?
C'est bac plus 8. Bon courage.
Mmh. Ouais, ça veut dire docteur, quoi.
Docteur en astrophysique.
Alors, d'abord, tu fais des maths, tu passes un bac S. Ensuite, tu passes une licence de physique. Physique appliquée de préférence. Et puis, avec une petite option astronomie. Puis, tu finis sur un master. Enfin, tu commences sur un master où tu vas faire plus précisément de la physique dans l'espace. Et enfin, tu fais une thèse. T'en as pour 8 ans, ouais.
Ça fait peur. Hein.
Non, mais dit comme ça, il y a plein de gens qui vont se lancer.
C'est comme avec le fitness, tu peux faire niveau 1, niveau 2, niveau 3.
Alors nous avons un pote, on va l'appeler comme ça, qui l'a fait au club. Hein. Il est arrivé au club à l'âge de 11 ans, il y a de nombreuses années, 1981. Ouais. Il s'appelle Jean-François Gonzalez. Il a suivi le cursus. Il est astrophysicien maintenant depuis de nombreuses années, dizaines d'années même, je dirais. Et il travaille au Centre de recherche astrophysique de Lyon, qui a son siège à Saint-Genis-Laval. Il est maître de conférence, Jean-François. C'est Jeff pour nous. Et Jeff et son équipe ont récemment, ont obtenu une avancée monumentale dans la compréhension de la formation du système solaire. On savait que dans le système solaire primitif, les poussières se sont agglomérées pour former les planètes. Mais il nous manquait plein d'éléments qui rendaient la chose impossible. On ne comprenait pas. Il manquait comme des chaînons manquants. Et Jeff et son équipe ont trouvé les chaînons manquants.
Wow. Et tout ça à partir de Saint-Genis-Laval, quoi.
Et tout ça à partir de Saint-Genis-Laval.
C'est pas mal, quand même. Mais non, mais c'est parce que souvent, dans les films américains, ils sont tous là dans des grandes villes, tu sais, machin. Nous, on a Saint-Genis-Laval et hop, on a trouvé le chaînon manquant, quoi. Représente Saint-Genis-Laval, quoi.
Tu représentes beaucoup ce soir.
Tu représentes tout le monde ce soir.
Alors, moi, je propose un petit truc. Ouais. À moins que tu aies encore quelque chose à rajouter. Mais alors, en fait, ce que je voulais te proposer, c'est on fait une petite coupure et ensuite on revient pour parler de cet objet mystérieux. Tu sais, le spectro. Tout ça. Vous voulez ou pas?
C'est oui. Promis.
On va comme ça? Ou tu avais autre chose à rajouter avant la coupure?
Non, on va faire la coupure.
Eh bien, alors faisons ça, on se retrouve après pour vous parler d'un outil. Thank you.
Et vous êtes de retour dans la causerie astronomique en compagnie de Georges, comme tous les trimestres de 22h à 23h sur Radio Canut. Et on vient d'écouter Electrize de Jean-Michel Jarre et Hans Zimmer. C'est la soirée Hans Zimmer ce soir, on en a passé deux.
On passe le dernier.
Ah, il y en a encore un après ? Ah oui, il y en a même un après à la fin, donc il y en aura trois, ça va être bien. Donc juste avant la pause, Georges, tu nous parlais des astrophysiciens. Donc les chercheurs en astrophysique, on voulait juste rappeler qu'il y en a 700 environ en France, qu'il y a 15 centres de recherche, qui sont plusieurs milliers dans le monde à faire de la recherche astrophysique. Mais ils font ça comment ? Ben, ils font pas ça avec leurs petites mains, ils ont des instruments quand même.
Oui, on peut citer quelques observatoires performants, répartis sur la surface de la planète. Il y a une trentaine de télescopes qui font plus de 4 mètres de diamètre, jusqu'à 10 mètres de diamètre. Donc on en a au sommet du Mauna Kea, à Hawaï, hein, c'est un volcan à 4200 mètres d'altitude avec un ciel fantastique. On en a également aux îles Canaries, où on a quand même un télescope de 10 mètres. C'est pas très loin, les îles Canaries, c'est propriété de l'Espagne. Et au Chili. Et au Chili, on a deux observatoires où les Européens ont quelques télescopes, La Silla et Cerro Paranal. Tout ça est dans le désert d'Atacama, qui est l'un des plus secs déserts au monde. Et c'est du coup également le meilleur ciel de la planète. Et à Cerro Paranal, au Chili, les Européens ont installé le Very Large Telescope. Ce sont quatre télescopes de 8 mètres de diamètre, 8,2 même, mètres de diamètre. Ils peuvent fonctionner séparément ou tous les quatre réunis pour plus de performance. Mais c'est plus délicat. Alors, une petite parenthèse quand même, parce que tout ça coûte un peu d'argent. La question que les gens sont en droit de se poser, mais à quoi ça sert de dépenser tant d'argent pour comprendre le ciel ? Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt le mettre dans la recherche médicale, etc. ? Ben, il faut savoir que le budget total de la recherche en astrophysique, c'est ridicule par rapport au budget militaire, hein, des nations. D'accord ? Voilà.
Oui, c'est
la réponse que je ferai.
C'est-à-dire avec des chiffres.
Je dirais également que c'est l'esprit humain de vouloir comprendre dans quel environnement il vit, comprendre l'univers.
J'ai les chiffres si tu veux.
Vas-y.
Le budget total de l'astrophysique dans le monde entier, hein, je dis bien au niveau mondial, c'est moins de 2 milliards d'euros par an. Dans le monde entier, le budget militaire mondial, c'est 1280 milliards d'euros par an. Voilà, vous avez les chiffres. Donc, avant de gueuler sur les astrophysiciens,
on a tout dit.
Voilà,
on est d'accord.
Oui, et puis regarder les étoiles, c'est pas faire la guerre, en fait.
Non,
c'est observer.
Et puis surtout, je suis d'accord avec Georges, c'est que c'est aussi l'esprit de la curiosité humaine et c'est hyper important. Et puis surtout, moi je ne cesserai jamais de le dire, c'est qu'il vaut mieux savoir ce qu'on a au-dessus de la tête que d'essayer de remplir la tête de nos mioches de conneries. Voilà, ça me paraît plus important.
Ça c'est pas mal, oui.
C'est bien dit.
Voilà, c'était mon avis.
Bon, et sinon, on cause de mon matériel que je veux causer depuis avant, là ?
Oui, parce que tu veux qu'on cause du
spectroscope.
Voilà.
Qu'est-ce donc que ce spectroscope ?
C'est un accessoire qu'on met derrière un télescope hein, et qui permet de déterminer tout plein de choses. Alors, la spectroscopie, c'est encore à Newton qu'on la doit à l'origine. C'est lui qui a découvert la décomposition de la lumière en ses couleurs essentielles. C'est le premier à avoir expliqué l'arc-en-ciel. Cette lumière blanche est en fait un mélange de toutes les couleurs. De toutes les couleurs, c'est-à-dire de toutes les longueurs d'onde. À chaque couleur correspond une longueur d'onde. Et si on fait passer cet arc-en-ciel, qu'on appelle spectre, dans un système optique, et qu'on regarde très précisément ce qui se passe, une fente, un système optique, on s'aperçoit qu'il est strié de raies noires. Et ces raies noires correspondent en fait à des manques de lumière à ces longueurs d'onde-là. Parce que quand une source de lumière blanche passe au travers de matériaux, ces matériaux absorbent de la lumière à certains endroits. Et cette absorption, ces raies noires, c'est carrément une fiche d'identité du matériau que la lumière a traversé. C'est ce qu'on appelle l'analyse spectrale, c'est utilisé en chimie. et c'est utilisé depuis plus d'un siècle en astronomie. Ça permet d'avoir la composition d'une source lumineuse, une étoile, à distance, sans avoir besoin d'y aller, parce qu'on aurait bien du mal à y aller. On est bien d'accord.
Et on étudie que les étoiles avec l'analyse spectrale, ou on peut aussi faire ce qu'on appelle les exoplanètes,
oui,
les planètes
oui,
qui sont en dehors du système, tout ça.
On peut faire l'analyse spectrale de tous les objets lumineux du ciel, les galaxies, les exoplanètes autour d'autres étoiles.
Voilà, il faut juste que ça produise de la lumière et non pas la réfléchisse.
Ça marche aussi.
Ça marche si ça la réfléchit aussi. Oui,
tout à fait, ça marche aussi. Alors je dirais que c'est une technique qui est utilisée en chimie, qui est validée depuis longtemps. Hein. Mais là, on peut même palper la composition, donc on peut vérifier que ça marche réellement. Donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas avec les étoiles, même si on ne peut pas y aller.
Et c'est ce qui permet, alors moi vous avez bien compris, je suis celui qui capte rien tous ces trucs-là, mais c'est ce qui permet en fait de dire telle et telle chose, et sa composition est de telle ou telle...
tant de pourcents d'eux, tant de pourcents d'eux.
Il y a tant de pourcents d'hélium, il y a tant de pourcents de sodium, il y a tant de pourcents d'oxygène, il y a tant de pourcents de carbone.
Parce qu'en fait dans un spectromètre, enfin du coup dans un spectroscope, ce qu'on voit c'est un spectromètre qui va du bleu vers le rouge. C'est ça, en passant par toutes les couleurs.
Tout à fait.
Donc, si je me souviens, plus on est vers le bleu, plus on est vers des longueurs d'onde qui sont basses. Plus on est vers le rouge, on est vers des longueurs d'onde qui sont hautes. Donc, très rouge, c'est infrarouge. Très, très, très bleu, c'est ultraviolet. C'est des longueurs d'onde qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Et au milieu, il y a plein, plein de couleurs.
Tout à fait.
Et ça correspond à plein de...
Voilà. Et donc, dedans, on va voir une grande bande colorée avec des stries noires. Et ça va nous donner la composition de ce qu'on regarde.
Absolument.
Et donc un exemple, si par exemple je vois des bandes vertes, noires, jaunes et pas le reste.
Alors les bandes, elles sont toujours noires. Hein.
Ouais.
Mais elles sont situées à des endroits différents du spectre. Et c'est vraiment la signature de l'élément que la lumière a traversé. Cet élément, il a pris de la lumière à cet endroit-là. À cette longueur d'onde-là.
Et donc, si mon étoile, par exemple, elle est faite uniquement d'hydrogène, qu'est-ce que je vais voir dans mon spectroscope?
Tu vas avoir des grosses raies noires dans le rouge. Dans le rouge. Il y a plusieurs raies de l'hydrogène.
D'accord.
Et ça permet comme ça d'avoir la composition. Et sur les exoplanètes, c'est là que ça devient passionnant, c'est que ça fait quasiment un code-barre de la planète.
Absolument.
Vous avez vraiment une sorte de code barre.
Sur fond d'arc-en-ciel. C'est voilà. Exactement ça, l'aspect d'un spectre.
Bah moi, je suis bien content de savoir comment on fait pour savoir ce qui compose les choses. Parce que quand t'as pas un esprit scientifique, quand t'as pas à creuser là-dedans, en fait, des fois, on va te donner une info, on va te dire bah, ça, c'est de composer de tant et tant de gaz, de tant et tant de celui-ci. Et en fait, tu te dis, mais attends, mais enfin, toi qui n'as aucun esprit scientifique, mais ils ont fait comment? Enfin, ils ne sont pas montés pour aller voir. Donc.
Ils ont utilisé un truc découvert au 18e, c'est ça? 17e?
Oui.
17e siècle.
Newton.
Et qui marche toujours.
Newton encore, lui.
Ce qui me fait dire que je pense qu'il faut vraiment absolument continuer dans cet espace, cet esprit de se réapproprier les sciences, les matières, tout ça.
Qu'est-ce qu'on peut dire sur le spectre?
Attends, il y avait Stan qui avait une question.
Oui, c'est pas grave, Stan. Non, j'espérais juste qu'on allait bien mettre un résultat d'un spectrographe sur le blog.
Je me le suis noté.
On en mettra
bonne
un
idée.
Pour vous voyez comment c'est joli.
Alors en fait, ces raies noires, elles sont toutes situées à... aux mêmes distances les unes des autres, elles sont toutes situées exactement de la même façon sur chaque spectre, ce qui permet d'identifier les éléments en présence. Mais le spectre permet aussi bien d'autres choses, et notamment l'état de mouvement de la source de lumière. Si elle s'éloigne de nous, ces raies spectrales sont décalées vers le rouge, et si elle se rapproche au contraire de nous, ces raies spectrales sont décalées vers le bleu. On peut faire un parallèle avec l'effet Doppler, avec le son. Bien que le son a besoin de matériaux pour se propager, pas la lumière. La lumière se propage dans le vide, heureusement, sinon on n'aurait pas les étoiles. Une voiture, par exemple, qui passe alors que vous marchez sur le trottoir, quand elle se rapproche de vous, le son est très aigu, et dès qu'elle vous a dépassé, elle s'éloigne et le son devient très grave. C'est exactement ce qui se passe avec la lumière. Et même mieux, le décalage permet de déterminer la vitesse de rapprochement ou d'éloignement de la source lumineuse. Très très important en astronomie, en astrophysique. Mieux encore, si vous regardez une galaxie qui tourne sur elle-même, par exemple dans le sens des aiguilles d'une montre, ben, le bord droit va se rapprocher de vous. Ses raies spectrales vont être décalées vers le bleu. Le bord gauche va s'éloigner de vous. Ses raies spectrales sont décalées vers le rouge. Donc vous avez l'état de rotation de la galaxie simplement en étudiant son spectre. Alors qu'il faudrait des milliers d'années pour la voir tourner. Et déterminer dans quel sens elle tourne.
Et pourtant elle tourne. J'ai envie de passer cette phrase-là maintenant. Non, c'était mon côté Galilée, pardon.
Alors les spectrographes sont de plus en plus perfectionnés. Et le dernier cri, c'est une idée d'astrophysicien lyonnais, je tiens à le souligner. Et il a été en partie monté au Centre de recherche astrophysique de Lyon, à Saint-Genis-Laval. Il s'appelle MUSE. MUSE, c'est pour Multi-Unit Spectroscope Explorer. MUSE, joli nom, oui. Il dispose de 24 spectrographes, dernier cri, haute technologie. Et il est actuellement installé derrière l'un des plus puissants télescopes au monde, un des VLT de Cerro Paranal, au Chili. Et il fait des prouesses. Il fait déjà des prouesses. Il est installé depuis un peu plus de 2 ans derrière ce télescope. Alors MUSE, c'est un gros cube qui fait plusieurs mètres de côté. Oui, oui, qui pèse 7 tonnes. C'est un truc colossal.
Un détail.
c'est extrêmement élaboré. Et ben, dès ses premières performances, hein, il a pointé un champ de galaxies qu'avait photographié le télescope spatial Hubble. Eh bien, MUSE a vu des galaxies qu'Hubble n'avait pas vues dans ce champ, que le télescope spatial n'avait pas vues, par exemple.
C'est impressionnant.
D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur MUSE, vous allez sur le site c'est le CALAS, c'est ça qui avait fait la conférence.
Tout à fait.
Voilà, il y avait eu une conférence à Lyon il y a une semaine de ça, et il y a une vidéo, vous voyez un petit peu l'objet, c'est impressionnant. Voilà.
Ok. Alors, vu qu'on approche tout doucement de la fin, et qu'on est quand même autour de ces professionnels de l'astronomie, l'astrophysique et tout ça, tu voulais peut-être, tu trouvais intéressant de... Ouais, on est bien d'accord, c'est de ça qu'on va parler vite fait. C'est les défis, finalement, pour toi, ils ont des défis, ces chercheurs et ces astrophysiciens et physiciennes. Eh ben, donne-nous quelques... défis qu'il est.
Oui, oui, des choses qui résistent encore à l'observation de nos jours. Plus pour très longtemps, j'en suis persuadé. Et notamment, on a déjà parlé d'elle, la 9e planète du système solaire. On n'a toujours pas trouvé, hein, ça fait un moment qu'on la cherche. On a des bonnes raisons de penser qu'elle existe, les perturbations causées dans la ceinture de Kuiper, c'est-à-dire le système solaire externe, la ceinture de Kuiper. Mais c'est quand même chercher une aiguille dans une botte de foin pour la trouver. Mais je suis persuadé que si elle existe, on la trouvera. Si elle n'existe pas, ben, il faudra expliquer les perturbations et là, on va avoir un problème.
Jusque-là, tout va bien, mais plus tard, on ne sait pas.
Et c'est justement avec MUSE, c'est remonter encore plus loin dans le temps, regarder encore plus loin dans l'espace pour s'approcher le plus possible du Big Bang. MUSE a trouvé une galaxie à 13,4 milliards d'années-lumière. Ça veut dire qu'on la regarde telle qu'elle était il y a 13,4 milliards d'années, c'est-à-dire 600 millions d'années seulement avant le Big Bang, supposé.
Après.
Après le Big Bang, supposé. Avant d'arriver au Big Bang. Oui, donc on veut s'approcher encore davantage, voir à quoi pouvaient ressembler les premiers objets de l'univers après le Big Bang. Voilà un autre défi pas facile à réaliser. Un troisième défi qui risque d'être impressionnant, c'est enfin avoir une image directe d'un trou noir. Mais de tout temps, on raconte que c'est impossible. Le trou noir n'émet pas de lumière, il est impossible de le voir. Ben, si, ça va devenir possible. Il y a déjà en VLT un programme qui s'appelle Gravity, qui permet de s'approcher très très près du trou noir central de notre galaxie. Sur ce trou noir, il est colossal, hein, il fait 4 millions de fois la masse du Soleil. Il trône au centre de notre galaxie. En s'approchant très près de son bord, on espère voir la matière tomber vers ce quelque chose. On espère le voir. le programme Gravity, la gravité du trou noir. Et puis, ben, dans les années qui viennent, une série de radiotélescopes, toujours plus gros, disposés sur la surface de la planète, qui permettront peut-être de voir le trou noir directement. En tout cas, de voir toute cette matière extrêmement surchauffée, extrêmement lumineuse, qui est dans l'environnement du trou noir et qui semblera tourner autour. Mais ça, c'est dû à la distorsion de la lumière. On espère pouvoir avoir accès à ça. Le trou noir central de la Voie lactée, de notre galaxie, hein, il s'appelle Sagittaire 1. Et c'est, au niveau du diamètre, l'équivalent d'une bille ou d'une balle de golf posée sur la Lune. Ça ne va pas être facile à faire, au niveau de son diamètre apparent.
Ça, c'est impressionnant, quand même.
Ouais, une balle de golf qui fait combien de fois le poids du Soleil ?
C'est 4 millions de
4 millions de fois le poids du Soleil dans une balle de golf. Tant vous dire qu'au niveau énergétique, ça rigole pas, quoi.
C'est l'équivalent en matière de diamètre apparent. Le trou noir lui-même, il fait seulement 10 fois le Soleil en taille. C'est ridiculement petit en taille. En masse, c'est autre chose.
Juste quand même, parce qu'on en avait parlé, tu disais que dans le film Interstellar, la représentation du trou noir était assez fidèle
à
ce qu'on imagine, en fait, pour ceux qui aimeraient avoir une représentation, qui n'est qu'une représentation, mais voilà. Ouais.
Interstellar, dont la musique a été faite par Hans Zimmer.
Ça fait le truc, on va finir avec. Donc, c'est bien. Eh bien, on a terminé, Georges, pour toi ?
Oui.
Merci, encore une fois.
Oui, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci.
Et puis, nous, on va annoncer juste les deux infos qu'on a à annoncer. C'est déjà que la semaine prochaine, dans la causerie, c'est Foutoir. Voilà, c'est le groupe qui fait le... Oh, je ne sais pas comment on peut dire.
Fanzine.
Magazine, ouais. Fanzine, Foutoir. Et puis, bien plein d'autres choses. Ils viendront nous expliquer ce qu'ils font. Ils sont déjà passés une fois dans la causerie. Ils reviennent parce qu'ils ont aussi besoin d'un petit coup de main financier. On vous parlera de tout ça. Voilà.
Et l'autre rendez-vous, c'est le jour d'avant, c'est samedi prochain. Ce sera le 1er avril, c'est bien ça ? Et ça se passera à la librairie La Griffe, qui est toujours dans le 7e arrondissement. À partir de 15h, en fait, il y aura la présentation par l'auteur de son livre La
Fabrique du Musulman.
La Fabrique du Musulman, autour de la confessionnalisation et de la racialisation de la question sociale. Et c'est donc Nedjib Sidi Moussa qu'on retrouvera à la librairie La Griffe. Et j'espère peut-être on aura peut-être des retours avec lui. Enfin, on verra tout ça. Voilà. Et ben. Oh là là, vous êtes tous fatigués, on
dirait. Oui, c'est dur. Eh bien, Georges, on te dit à dans 3 mois.
Mm-hmm, avec plaisir.
Voilà, une nouvelle odyssée spatiale, mais on ne sait pas encore sur quoi, on verra bien.
Pour le solstice d'été.
D'été.
Ouais, voilà. Il fera encore plus chaud dans les studios.
Je serai tenu.
Qui a lieu le 21 juin, donc ça sera aux alentours du 21 juin.
Et Elodie, ça va, ça a été, ça s'est bien passé ?
C'était très bien, je trouve.
c'était bien vu, Elodie.
C'est drôle de voir, de réentendre des choses que j'entends régulièrement, du coup.
Mais qui est Elodie ?
C'est ça, parce qu'il y a un lien, en fait, entre Elodie et Georges.
Mais qui est Elodie ?
Voilà. C'est un jeu.
Elodie est ma fille aînée, c'est la révélation.
Voilà. Ils ont voulu faire un jeu.
Une révélation ce soir en direct.
C'est une révélation. C'est ton vrai père, il vient de le dire ce soir, tu peux en être sûr.
Je suis ton père.
Elodie, je suis ton père. Tu vas regarder les étoiles ce soir.
Oh, depuis toute petite, j'entraîne la nuit autour de télescopes. Elle n'en peut plus.
C'est pour ça qu'elle revient ce soir. Effectivement, c'est qu'elle n'en peut plus.
Bon, il est temps de couper cette causerie. Oui. À la semaine prochaine, on va se quitter avec Mountains, qui est issu de la bande originale du film Interstellar par Hans Zimmer. Allez, des bisous et à toutes et à tous.
Des bisous, bonne semaine.
Bisous, ciao.
Bonne soirée.
Bonne soirée.